4. De la découverte de l'anneau. Comme il est raconté dans Le Hobbit, il se présenta un jour à la porte de Bilbo, le grand magicien Gandalf le Gris et 13 nains avec lui. Nuls autres en vérité que Thorin l'écu de chêne, descendant de roi, et ses 12 compagnons d'exil. Il prit la route avec eux, à sa grande surprise d'alors, par un matin d'avril de l'année 1341 compute du comté, en quête de fabuleux trésors. Ceux des rois sous la montagne, amassés par les nains dans les profondeurs de l'Erebor, au Val, loin dans l'Est. La quête fut couronnée de succès, et le dragon qui gardait le trésor fut anéanti. Et bien qu'on ait dû, avant de triompher, livrer la bataille des 5 armées où mourut Thorin, et où furent accomplis de nombreux faits d'armes, cet épisode n'aurait guère influencé l'histoire ou mérité plus de quelques lignes dans ces longues annales du Troisième Âge, n'eût été un accident qui se produisit en chemin. Leur groupe fut assailli par des orques dans un haut col des montagnes de brume qui devait les conduire dans la contrée sauvage, de sorte que Bilbo se perdit quelque temps dans les ténèbres des mines orques au cœur des montagnes. Et là, tandis qu'il tâtonnait vainement dans le noir, il posa la main sur un anneau qui gisait sur le sol d'un tunnel. Il le mit dans sa poche. On eût dit à ce moment-là un simple coup de chance. Cherchant la sortie, Bilbo descendit aux racines des montagnes jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Tout au fond du tunnel s'étendait un lac froid, loin de toute lumière. Et sur un îlot rocheux, au milieu des eaux, vivait Gollum, une hideuse petite créature. Il manœuvrait une petite barque en se servant de ses grands pieds plats, sondant l'obscurité de ses yeux pâles et lumineux, et attrapant des poissons aveugles avec ses longs doigts pour ensuite les manger crus. Il mangeait tout ce qui bougeait, même de l'orque s'il pouvait l'attraper et l'étrangler sans avoir à lutter. Il était en possession d'un trésor secret qui lui était parvenu très longtemps auparavant tandis qu'il vivait encore à la lumière. Un anneau d'or qui rendait son porteur invisible. C'était bien la seule chose qu'il aimait, son trésor. Et il lui parlait, même quand il n'était pas avec lui. Car il le tenait caché et en sécurité dans un trou de son île, sauf quand il partait chasser ou espionner les orques des mines. Il eût peut-être attaqué Bilbo sans hésiter s'il avait eu l'anneau en sa possession quand ils se rencontrèrent, mais il ne l'avait pas, et le hobbit tenait dans sa main un poignard elfique qui lui servait d'épée. Pour gagner du temps, Gollum proposa donc à Bilbo de se prêter au jeu des énigmes. S'il posait une énigme que Bilbo ne pouvait deviner, lui dit-il, alors il le tuerait et le mangerait. Mais si Bilbo l'emportait sur lui, alors il ferait ce que Bilbo voulait. Il le conduirait à travers les tunnels vers une issue. Comme il était perdu dans les ténèbres, sans espoir, et ne pouvait ni avancer ni rebrousser chemin, Bilbo accepta le défi de Gollum. Et chacun posa à l'autre de nombreuses énigmes. Bilbo gagna la partie en fin de compte, plutôt par chance, semble-t-il, que par présence d'esprit. Car il finit par ne plus savoir quelle énigme poser et s'écria, tandis que sa main se refermait sur l'anneau qu'il avait ramassé puis oublié, « Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ?» À cela, Gollum ne put répondre, même en demandant 3 chances. Les autorités, il est vrai, diffère quant à savoir si cette dernière question était bel et bien une énigme selon les règles strictes plutôt qu'une simple question. Mais tous s'accordent pour dire que, après l'avoir acceptée et tenté de deviner la réponse, Gollum était lié par sa promesse. Et Bilbo le pressa de tenir parole, car il lui vint à l'esprit que cette créature visqueuse pouvait se révéler fourbe, même si de telles promesses étaient tenues pour sacrées et que tous, hormis les créatures les plus mauvaises, craignaient autrefois de les renier. Mais après avoir baigné si longtemps dans les ténèbres et la solitude, le cœur de Gollum était noir et empreint de traîtrise. Il s'esquiva et retourna sur son île, dont Bilbo ne savait rien, non loin dans l'eau sombre. Là, songeait-il, se trouvait son anneau. La faim le rongeait à présent, la colère aussi. Et une fois son trésor avec lui, il ne craindrait plus aucune arme du tout. Mais l'anneau n'était pas sur l'île. Il l'avait perdu, son trésor était parti. Bilbo eut froid dans le dos en entendant son cri déchirant, même s'il ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Gollum avait enfin sauté à la conclusion, mais trop tard.
« Qu'est-ce qu'il a dans ses poches ? »
s'écria-t-il. Les yeux de Gollum brûlaient d'un feu verdâtre, tandis qu'il se hâtait de revenir pour tuer le hobbit et récupérer son trésor. Bilbo comprit au dernier moment le danger qui le guettait et s'enfuit à l'aveuglette dans le passage qui l'avait conduit au lac. Et c'est alors que sa chance le sauva une fois de plus. Car au beau milieu de sa course, il mit la main dans sa poche et l'anneau se glissa discrètement à son doigt. Ainsi Gollum le dépassa sans l'apercevoir et il s'en fut guetter la sortie de crainte que le voleur ne s'échappe. Bilbo le suivit prudemment tandis qu'il jurait et conversait avec lui-même au sujet de son trésor. Et de cette conversation, Bilbo déduisit à son tour la vérité, et il reprit espoir dans les ténèbres. C'est lui qui était tombé sur le merveilleux anneau, et il tenait là une chance d'échapper aux orques et à Gollum. Ils finirent par s'arrêter devant une ouverture invisible qui menait aux portes inférieures des mines, du côté est des montagnes. Là, Gollum s'accroupit, aux abois, flairant et écoutant. Et Bilbo fut tenté de le tuer avec son épée. Mais la pitié retint son bras. Et s'il conserva l'anneau dans lequel résidait son seul espoir, il ne voulut pas s'en servir pour poignarder cette misérable créature, alors sans défense. Enfin, rassemblant tout son courage, il sauta dans le noir par-dessus Gollum et s'enfuit par le tunnel, poursuivi par les cris de haine et de désespoir de son ennemi.
« Voleur, voleur, Bessac, on le hait à jamais !»
Or, fait curieux, cette histoire n'est pas celle que Bilbo rapporta tout d'abord à ses compagnons. Il leur raconta en effet que Gollum avait promis de lui faire un cadeau s'il gagnait la partie. Mais en allant le chercher sur son île, Gollum s'était aperçu que le précieux objet avait disparu, un anneau magique qui lui avait été donné il y a longtemps, le jour de son anniversaire. Bilbo comprit que c'était précisément l'anneau qu'il avait trouvé, et puisqu'il avait gagné la partie, l'objet lui revenait déjà de droit. Mais comme il se trouvait en mauvaise posture, il n'en souffla un mot à Gollum et exigea, faute de cadeau, que Gollum lui montre la sortie en guise de récompense. Tel fut le récit que Bilbo consigna dans ses mémoires et il semble ne l'avoir jamais modifié lui-même, pas même après le conseil d'Elrond. On le trouvait encore, à l'évidence, dans l'original du Livre Rouge, tout comme dans plusieurs copies et abrégées. Mais bien d'autres copies présentent la vraie histoire comme variante, sans doute tiré des notes de Frodo ou de Sam Saget, qui apprirent tous deux la vérité, mais semblent n'avoir rien voulu supprimer qui soit de la plume du vieux hobbit. Gandalf, pour sa part, douta du récit de Bilbo sitôt qu'il l'entendit, et il se montra toujours très curieux au sujet de l'anneau. Il finit par apprendre la vérité de la bouche de Bilbo au terme de longues interrogations qui ébranlèrent leur amitié pendant un certain temps. Mais le magicien semblait attacher beaucoup d'importance à la vérité. Il ne le dit pas à Bilbo, mais il lui paraissait tout aussi troublant de constater que le bon hobbit n'avait pas dit la vérité dès le début, ce qui était tout à fait contraire à ses habitudes. Reste que l'idée d'un cadeau n'était pas qu'une simple fantaisie hobbitesque. Elle lui avait été suggérée, comme Bilbo le reconnut, par la conversation que tenait Gollum et que Bilbo surprit. Car Gollum appela bel et bien l'anneau son cadeau d'anniversaire, et ce, à plusieurs reprises. Un fait qui, aux yeux de Gandalf, semblait tout aussi étrange et suspect. Mais il ne découvrit pas la vérité à ce sujet avant de nombreuses années encore, comme on le verra dans ce livre. La suite des aventures de Bilbo ne nous concerne guère ici. Grâce à l'anneau, il échappa aux gardes orques de la porte et rejoignit ses compagnons. Il se servit de l'anneau à maintes reprises au cours de sa quête, surtout pour prêter main forte à ses amis. Mais il leur cacha son existence aussi longtemps qu'il le put. De retour chez lui, il ne le mentionna plus jamais, sauf à Gandalf et à Frodo. Et personne d'autre dans le comté n'en savait quoi que ce soit, ou du moins le croyait-il. Seul Frodo eut le privilège de voir le récit de voyage qu'il était en train d'écrire. Son épée, Dar, Bilbo la suspendit à sa cheminée. Quant à sa merveilleuse cotte de maille, le cadeau des nains trouvé à même le trésor du dragon, il la prêta à un musée, à la maison des Massom de Grande Creusée, en fait. Mais il gardait chez lui, dans un tiroir, la vieille cape et le capuchon défraîchi qu'il avait porté durant ses voyages. Et l'anneau, bien attaché à une chaînette, demeurait dans sa poche. Il retrouva Cul-de-sac, son chez-soi, le 22 juin de sa 52e année, 1342 CC. Et rien de bien remarquable ne se produisit dans le comté jusqu'à ce que M. Bessac entame les préparatifs de la fête devant célébrer son 111e anniversaire, 1401 CC. C'est alors que s'ouvre cette histoire. Note sur les archives du comté. À la fin du Troisième Âge, le rôle que jouèrent les hobbits dans les grands événements ayant mené à l'incorporation du comté au sein du royaume réuni éveilla chez eux un intérêt plus général pour ce qui touchait leur propre histoire. Et nombre de leurs traditions, restées en grande partie orales, furent recueillies et mises par écrit. Les grandes familles s'intéressèrent également aux affaires du royaume dans son ensemble, et nombre d'entre eux étudièrent son histoire et ses légendes anciennes. Dès la fin du 1er siècle du 4e âge, il existait déjà dans le comté plusieurs bibliothèques renfermant une multitude de livres d'histoire et d'archives de toutes sortes. Les plus vastes collections se trouvaient probablement à Sous-les-Tours, à Grand-Smiolz et à Castelbrandy. Le présent compte-rendu de la fin du Troisième Âge est tiré en grande partie du livre rouge de la Marche de l'Ouest. Cette source, des plus importantes pour l'histoire de la guerre de l'Anneau, tient son nom du fait qu'elle fut longtemps préservée à Sous-les-Tours, la demeure des Belles-Enfants, gardiens de la Marche de l'Ouest. Il s'agissait à l'origine du journal personnel de Bilbo, qu'il emporta avec lui à Fondeval. Frodo le rapporta dans le comté avec de nombreuses feuilles de notes éparses, et en 1420-1421 CC, il en noircit presque toutes les pages en rédigeant son compte-rendu de la guerre. Mais, annexé à ces documents et conservé avec eux, probablement dans un unique étui rouge, se trouvaient les trois grands livres à reliure de cuir rouge que Bilbo lui avait offerts en guise de cadeau d'adieu. À ces quatre volumes, on ajouta en marge de l'Ouest un cinquième livre, comprenant des commentaires, des généalogies et divers autres textes au sujet des hobbits de la fraternité. L'original du livre rouge n'a pas survécu, mais de nombreuses copies, en particulier du premier volume, furent préparées à l'usage des descendants des enfants de Maître Sam Saget. La copie la plus importante n'est toutefois pas de cette origine. Conservée à Grand-Smiolz, elle fut néanmoins produite au Gondor, probablement à la demande de l'arrière-petit-fils de Peregrin, et terminée en 1592 CC, 172 QA. Son scribe méridional y ajouta cette note. Fine de Gil, écrivain du roi, acheva cette œuvre en 4-172. Il s'agit d'une copie, exacte en tout point, du livre du Tain conservé à Minas Tirith. Ce livre était lui-même une copie du livre rouge des Perianas, faite à la demande du roi Elessar. Il lui fut apporté par le Tain Peregrin lorsque celui-ci se retira au Gondor en 4-64. Le livre du Tain fut donc la toute première copie du livre rouge, et il contenait bien des choses qui furent plus tard omises ou perdues. À Minas Tirith, il fut abondamment annoté et reçut de nombreuses corrections, notamment en ce qui concerne les noms, les mots et les citations en langue elfique. Il en y ajouta une version abrégée des passages du conte d'Aragorn et d'Arwen, qui n'entrent pas dans le compte-rendu de la guerre proprement dit. Le récit complet est attribué à Barahir, petit-fils de l'intendant Faramir, qui l'aurait composé quelque temps après la mort du roi. Mais si la copie de Fine de Gil revêt une importance particulière, c'est surtout parce qu'elle est la seule à donner les traductions de l'elfique par Bilbo dans leur intégralité. Cette œuvre en trois volumes, composée entre 1403 et 1418, fait montre d'un savoir-faire et d'une érudition considérable, mettant à profit toutes les sources vivantes ou écrites dont l'auteur disposait à Fendeval. Mais puisque Frodo n'en fit guère usage, vu qu'elle se rapporte presque exclusivement aux jours anciens, nous n'en dirons pas davantage ici. Meriadoc et Peregrin, qui prirent la tête de leur grande famille, n'en maintinrent pas moins leur relation avec le Rohan et le Gondor. Aussi, les bibliothèques de Fertebouc et de Toquebourg renfermaient-elles bien des choses qui ne figurait pas dans le livre rouge. À Castelbrandy se trouvaient de nombreux ouvrages consacrés à l'Eriador et à l'histoire du Rohan. Certains d'entre eux furent composés par Meriadoc lui-même ou commencés par celui-ci. Même si dans le comté, on se souvenait surtout de lui pour son herbier du comté et pour son compute des années dans lequel il comparait les calendriers du comté et de Brie d'une part avec ceux de Fendeval, du Gondor et du Rohan d'autre part. Il fut également l'auteur d'un court traité sur les mots et noms anciens du comté, s'attachant plus particulièrement à explorer la parenté qu'entretiennent avec la langue des Rohirrim certains vocables du comté, tels le mot massum, et éléments anciens se retrouvant dans les noms de lieux. Les livres conservés à Grandsmeols, moins intéressants pour les habitants du comté, revêtaient néanmoins une plus grande importance historique. Aucun d'entre eux n'était l'œuvre de Peregrin, mais lui et ses successeurs réunirent de nombreux manuscrits de la main des scribes du Condor, surtout des copies ou des résumés de chroniques et de légendes se rapportant à Elendil et à ses héritiers. C'était le seul endroit du comté où se trouvait une documentation substantielle concernant l'histoire de Númenor et la venue de Sauron. C'est probablement à Grandsmeols que fut élaboré le compte des années à partir de documents recueillis par Meriadoc. Bien que les dates fournies soient souvent hypothétiques, surtout pour le deuxième âge, elles n'en méritent pas moins notre attention. Il est probable que Meriadoc obtint de l'aide et des renseignements à Fendeval, où il se rendit plus d'une fois. Là, bien qu'Elrond fût parti, ses fils demeurèrent longtemps, avec quelques-uns de la gens des hauts elfes. Il est dit que Celeborn alla y demeurer après le départ de Galadriel, mais il n'est aucun souvenir du jour où il partit en quête des Havres Gris. Et avec lui, s'enfuit la dernière mémoire vivante des jours anciens en terre du milieu.